RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous voulez discuter avec les GG, avec les grandes gueules, pas de problème. Le 32-16 est toujours à votre disposition de 9h à midi, comme tous les jours. Aujourd'hui dans les GG, Florent Guébali, l'entrepreneur de la transition écologique, Bruno Poncet, le cheminot, et Charles Consigny, l'avocat. C'est la deuxième heure des GG. Tout à l'heure, à 11h20, je ne sais pas si vous avez regardé le documentaire Netflix sur l'équipe de France et le fameux épisode de la grève de Nysna. C'est devenu un des documentaires les plus regardés sur la plateforme de streaming. Venez le commenter avec nous. Est-ce que ça réhabilite ou pas certains joueurs de l'équipe de France? On vous attend à 11h20. 10h20, 600 professionnels du cinéma signent une tribune anti-Bolloré. Ils ne veulent pas laisser le cinéma aux mains de l'extrême droite. C'est ce qu'ils disent. Là encore, on vous attend au 32-7. Du coup, du côté de Canal+, on dit, bon, bah, écoutez, puisque c'est comme ça, tous les signataires de la tribune, plus de pognon pour tourner les films. Terminé. Il n'y a pas raison de se faire cracher à la figure et derrière de demander de l'argent. D'abord, on va s'intéresser aux affaires du périscolaire à Paris. Vous savez, c'est le scandale des violences sexuelles. Le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert des enquêtes pour de possibles violences. Écoutez bien, sur 84 écoles maternelles, une vingtaine d'écoles élémentaires et une dizaine de crèches.
C'est systémique. C'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Grégoire, lui-même, le nouveau maire de Paris, qui était déjà dans l'exécutif parisien lors de la précédente mandature et qui là veut prendre les choses en main parce qu'effectivement, c'est un véritable scandale. Tu l'as dit, hein, il n'y a pas un arrondissement parisien qui est épargné par ce scandale. C'est ce qu'a dit la procureure de Paris, Laure Bécaud, qui l'a annoncé hier. Et donc tous les arrondissements parisiens sont concernés. Donc plus de 80 écoles maternelles, des écoles élémentaires, une dizaine de crèches. C'est une angoisse absolue pour les parents. C'est aussi des faits qu'on avait dénoncés ici même dans les grandes gueules qui sont particulièrement scandaleux, notamment des animateurs qui avaient été accusés d'agression sexuelle et qu'on recasse dans un autre arrondissement, des plaintes qui n'aboutissent pas, des enquêtes qui sont très longues. Il y a eu une grève qui a été lancée par l'intersyndicale des animateurs parce que désormais, Emmanuel Grégoire, c'est tolérance zéro. C'est-à-dire que dès qu'il y a une suspicion, il veut suspendre l'animateur. Alors, les syndicats ne sont pas d'accord avec ça. Bref, on va voir si Grégoire arrive à s'en sortir. En tout cas, il va falloir rassurer les parents. Et il faut aussi que toutes les procédures aillent jusqu'au bout.
D'ailleurs, c'est ce que dit le maire. Hein. Il y a eu des erreurs. Il parle d'erreurs. Mais les parents doivent avoir confiance maintenant. C'est ce qu'il dit, le maire de Paris. Qu'est-ce que t'en dis, Bruno Poncet? 32-16, hein, pour en parler avec les GG.
Si, moi, je vais perdre à avoir confiance parce que c'est pas comme si Emmanuel Grégoire n'était pas là avant. Donc en fait, malheureusement, il est aussi dépositaire d'un système. Alors, je dis pas qu'il a couvert les trucs, mais pendant sa campagne, en tout cas, on en a pas quasiment pas parlé. Alors que ça groubissait, et en fait, on vroubissait. On entendait bien les gens qui disaient oh, attention, regardez ce qui se passe dans vos crèches, dans votre périscolaire. Donc, demander aujourd'hui aux parents d'avoir confiance, je pense que c'est mission impossible, et tant mieux. Je veux dire qu'il faut surtout pas avoir confiance. Par contre, il faut être radical. Et lui, j'ai l'impression qu'il commence à avoir des mesures radicales et il commence à vraiment prendre le sujet en main. D'ailleurs, depuis qu'il est arrivé, je pense qu'on l'entend parler de lui que là-dessus. Donc ça veut dire vraiment qu'il prend le sujet à cœur, et tant mieux pour les gens. Mais par contre, moi, quand je vois les collectifs de parents qui témoignent régulièrement, tu sens quand même que c'est pas d'aujourd'hui, que ça fait des fois plus de 10 ans, plus de 15 ans, et qu'à un moment donné, ouais, il serait peut-être temps de mettre les mains dedans et d'y aller au bout. Et donc je pense que Grégoire n'a pas le choix. Mais qui demande la confiance aux parents et aux gens qui habitent à Paris et qui ont besoin du périscolaire, je pense que là, il peut toujours rêver, ça n'arrivera pas, hein, et ça n'arrivera plus.
Flora.
Moi, je suis très embêtée parce que c'est ma couleur politique et j'ai soutenu et je soutiens toujours Emmanuel Grégoire. Mais sur ce sujet, non, il y a des limites en fait, et je suis embêtée parce
c'est
que
quoi les limites en fait quoi
les limites c'est que quand on est parent à Paris, on est angoissé, c'est la vérité. Mais quand on est parent partout, on est angoissé, puisque il a raison, il pose le bon diagnostic, Emmanuel Grégoire. C'est des violences qui sont systémiques, qui ont toujours.
Oui, c'est pas
regardez, on traite l'affaire Patrick Bruel. Toutes les personnes qui nous appellent ont été victimes de violences et de viols dans leur enfance. Donc on sait très bien que c'est un problème qui est systémique et que c'est pas seulement à Paris en 2026 que ça a lieu. Ça a toujours été, et au moins il prend le problème à bras le corps. Moi, si j'étais lui, je ne nous demanderais pas d'avoir confiance, je nous demanderais de participer au processus. Le problème à Paris, c'est quand on veut participer à quelque chose, bah, en général, on se prend un mur ou on se prend une porte fermée. Moi, enfin, je vous dis les choses puisque je suis une jeune maman en postpartum. Honnêtement, les services publics, nationaux ou parisiens, ils sont trop décevants quand on est parent. Et après, on s'étonne que les femmes fassent des dépressions du postpartum. Moi, on m'a annoncé que j'avais 15% de chance d'avoir une place en crèche parce que c'est comme ça. Ensuite, la sécurité sociale, je vous raconte même pas à quel point ils sont absents. Et je dois avouer, parce que les grandes gueules, c'est avant tout un effort d'honnêteté intellectuelle, que à chaque fois que j'ai affaire à un service privé, il fonctionne bien. Ma pédiatre, qui est une profession libérale, elle est extraordinaire, elle est toujours au rendez-vous. Enfin voilà. Et pourtant, j'essaye. Ouais, non, mais je fais preuve. J'essaye de faire preuve d'honnêteté intellectuelle. De mon expérience citoyenne, c'est très décevant et c'est très difficile quand on a une petite vie à charge, un tout jeune bébé. On a envie de pouvoir se reposer. Par exemple, la PMI, c'est le service public de la petite enfance, ils me répondent pas au téléphone et ça c'est factuel. Donc moi je sais pas, j'essaye de pas mêler expérience personnelle et mais dans à l'échelle d'une ville, c'est ça. C'est ça qu'on attend quand on est citoyen. Si on n'a pas une place en crèche, quand on a besoin des services publics, ils sont pas au rendez-vous, ils sont pas là pour nous.
Il faut expliquer à Paris, c'est la semaine des 4 jours et demi. Vous savez, en 2013, Vincent Peillon avait changé les rythmes scolaires, il voulait plus d'activités culturelles, sportives, donc plus de périscolaires. Finalement, ça coûtait une blinde. La plupart des mairies sont revenues, sauf Paris qui a plus d'argent et qui est resté donc attaché à cette réforme de 2013. Donc, le temps périscolaire est plus important à Paris qu'ailleurs. Ça demande donc plus d'agents. Il y a entre 14 000 et 15 000 agents de périscolaires à Paris. Vous imaginez, c'est dingue. Et on a du mal à recruter parce que c'est un métier qui n'est pas simple, pas très bien payé, avec des horaires fractionnés, puisqu'on travaille un peu le matin, un peu l'après-midi. Donc on recrute un peu n'importe qui et un peu n'importe comment. Ça a été démontré aussi. Et on n'a pas été assez vigilant sur les profils. Quand on s'aperçoit tout d'un coup, il y a les types de 50 balais qui arrivent, qui n'ont jamais fait ça et qui se mettent dans le périscolaire, on devrait se poser des questions. Ouais, quelles sont ses motivations? Voilà. Donc c'est tout un système. Qu'on a mis en place et qu'on n'a pas réussi à assumer. Et le problème, c'est qu'Anne Hidalgo ne s'était pas emparée du sujet. Il faut reconnaître qu'elle n'était pas à la hauteur de la situation.
Oui, moi, c'est ça que je comprends pas, pardon, dans ce que dit le maire de Paris, Emmanuel Grégoire. Il dit que ça avait un caractère systémique. Mais ça veut dire quoi, systémique?
Ah, puis il était surtout.
Ça veut dire généralisé.
Oui, mais ça veut dire. D'accord, si ça a été généralisé, que c'est devenu un système.
Les pédocriminels se sont donné rendez-vous en se disant voilà, c'est facile de se faire embaucher, on est en contact avec des enfants.
Ouais, mais personne vérifie.
Si le mot parle. Peut-être même de réseau entre eux.
Et c'est pour ça.
Ils se donnaient des infos et.
Donc pourquoi est-ce que on n'a pas été vigilant là-dessus? Moi c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi ça a perduré?
C'est des parents étaient écrits depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui, elles ont pas été créées au mois de mai.
Pardon, mais les intéressés, les responsables font l'objet d'une mansuétude inouïe en réalité. Pourquoi? Parce que c'est une municipalité de gauche. Vous pouvez être sûr que le même scandale à Versailles avec un maire catho et une équipe catho, vous auriez eu des unes de Libération pendant des semaines, la honte, etc. Vous auriez eu.
C'est vrai que Bétarame, il y a eu une commission d'enquête parlementaire sur Bétarame.
Il y a une mansuétude.
On a même accusé un Premier ministre d'être.
Bien sûr.
D'avoir couvert.
Complice, quasiment.
D'être complice.
Sa fille a dit qu'il avait menti.
Le scandale qu'on a fait. Enfin, le bruit médiatique
qui est
sur Bétarame
et la nullité. Et la nullité absolue de Mme Hidalgo. Et d'Emmanuel Grégoire, puisqu'en fait ils sont ensemble, elle est encore démontrée par leur grave et lourde faillite sur ce sujet. On parle quand même d'agression sexuelle et de viol sur des enfants. Et ils ont été nuls, archi nuls. Mais comme ils sont sur tous les sujets, et quand on le dénonce, on est soi-disant réactionnaire, etc.
Fasciste,
oui. Madame Hidalgo, elle était trop occupée à faire des interviews à Vanity Fair pour parler de son amitié avec Leonardo DiCaprio et à pourrir la vie des Parisiens. Ça, oui, ça, elle était occupée à faire ça et à s'acheter des robes Dior en notes de frais. Ça, elle a été débordée. Et Emmanuel Grégoire, il était occupé à préparer la suite. Et Audrey Pulvar, on ne sait toujours pas ce qu'elle faisait pendant ce temps-là.
Elle était adjointe à l'agriculture.
Donc elle faisait rien. Et pendant ce temps-là, il y avait des enfants qui se faisaient agresser par des pédophiles dans les établissements parisiens. Ils ont été nuls. Et Grégoire, il n'aurait même pas dû être candidat après un scandale pareil.
C'est vrai,
et l'opposition a été nulle aussi.
Emmanuel Grégoire a été élu, donc les Parisiens l'ont choisi.
Oui, mais parce que les Parisiens font plus d'enfants. De toute façon, tu ne peux plus avoir une famille dans Paris. Donc de toute façon, le problème va être vite réglé. C'est plus possible d'avoir des enfants à Paris.
On a un peu d'aigreur.
Mais ce sont des nuls et des responsables.
On a Guillaume qui est dans le nord de la France et qui veut réagir. Bonjour Guillaume.
Bonjour Grande Gueule. Bonjour.
Oui, bienvenue Guillaume. Vous voulez réagir? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous choque alors? Dites-moi.
Bah, il me choque parce qu'en fait, on parle jamais de la procédure. Parce qu'en fait, les périscolaires, ça demande un agrément au niveau de jeunesse et sport. Niveau de jeunesse et sport, qui oblige des obligations. L'obligation de déclarer via un site internet qui s'appelle le TAM, où à un moment donné, on met les noms des animateurs, et 24 heures après, on a validation ou pas de l'animateur qui veut travailler, parce qu'ils ont vérifié son casier judiciaire. Mais non, ça va plus loin également. C'est qu'en fait, dès qu'à un moment donné, quelque chose se passe dans le cadre de la structure, le directeur ou les supérieurs ont l'obligation de faire une déclaration d'accident grave. Donc là, par exemple, si à un moment donné, des parents viennent dire « mon enfant a été victime d'attouchement », le directeur ou les supérieurs ont l'obligation de faire une déclaration d'accident grave, qu'ils envoient à Jeunesse et Sport, qui communique également au niveau du préfet, qu'une enquête est mise en place, et Jeunesse et Sport va suspendre automatiquement cette personne le temps de l'enquête. Donc en fait, il va arriver sur le fichier du TAM en disant « cette
personne… » Mais là, vous nous parlez d'un monde idéal. Si ça, non, ce que vous nous décrivez…
Non, c'est la réalité. Non, c'est l'obligation. Non, c'est-à-dire que… Non,
bah sinon, parce que si le, on aurait passé scandale.
Non, parce que si le directeur ne le fait pas, il est condamnable, en fait. Et c'est là-dessus où je pense que je vous invite à vous renseigner là-dessus. Non, mais renseignez-vous là-dessus.
Non, mais Guillaume, d'accord, ça c'est la procédure, sauf qu'elle n'a pas été appliquée ou mal appliquée, puisqu'on ne serait pas face à ces scandales à répétition.
Oui, dans ce cas, il faut aller chercher les responsables, ceux qui n'ont pas fait déclaration. Même pareil par rapport aux crèches. On va parler aux crèches. Ça fait depuis 2 ans maintenant, ils ont mis en place un test, une attestation d'honorabilité. Sur 300 000 personnes qui ont fait cette demande, 4 800 personnes ont eu une attestation négative. C'est-à-dire 4 800 personnes travaillaient en crèche alors qu'ils ne pouvaient pas. Parce qu'il n'y avait pas de système de contrôle. Alors que dans les périscolaires, ça fait 15 ans qu'ils ont mis en place quelque chose. Il est temps qu'on contrôle dans ce pays. Il est temps qu'en fait, on a les outils pour le faire. Également au niveau de l'éducation nationale, ça se faisait pas par le passé, ça se fait maintenant. Il y a quelque chose qui existe, qu'on le fasse, qu'on consulte les casiers judiciaires et qu'au moins on ait quelque chose de neutre et qu'on applique la réglementation, l'obligation de devoir déclarer, de faire ces démarches-là. Et que si les personnes qui font pas ces démarches-là, aussi bien les directeurs que les hiérarchies, ouais. Parce que je pense que dans les bureaux, dans le cadre du périscolaire, vous nous en avez parlé la dernière fois, il y a une tripotée de personnes, une armée mexicaine de fonctionnaires qui sont là-dedans, qui font pas leur taf, et à un moment donné, eux, ils doivent être sanctionnés. C'est ça. Si à un moment donné, ils ont pas fait la déclaration, ils doivent être sanctionnés également. Donc, c'est une faute grave.
Donc, il y a à la fois les procédures, et puis la responsabilité individuelle de ceux qui ont en charge ce périscolaire. C'est ce que vous dites, Guillaume, aujourd'hui. Qu'il fallait être vigilant et respecter. Mais alors, Guillaume, restez avec nous, parce qu'on a Lila qui veut témoigner. Elle est dans l'Hérault. Bonjour, Lilia.
Bonjour.
Directrice d'accueil de loisirs. Et vous voulez réagir justement à ce que dit le maire de Paris, ce qu'il dit aux parents maintenant. Voilà, c'était certes systémique, mais ayez confiance dans la suite. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Lilia?
Eh ben, je comprends qu'il faut essayer de nous faire confiance, même si c'est compliqué vu les circonstances. Mais moi, le truc que je m'interroge, c'est que je comprends pas pourquoi ça arrive tout court. Parce que, en tout cas, sous ma direction à moi, il n'y a pas un animateur tout seul. Toutes les pièces sont ouvertes. Ben oui, il y a des vitres partout. Même quand il faut emmener un enfant en toilette qui n'a pas l'âge encore de s'essuyer seul ou qui fait un accident, qu'il faut le changer, toutes les portes sont ouvertes, tout est grand, enfin ça me paraît improbable, entre guillemets, de laisser un animateur seul avec des enfants, et même les enfants sont entourés d'autres enfants, un enfant n'est pas tout seul avec un animateur. Mmh. Donc nous on inscrit aussi les personnes qui postulent sur la TAM, c'est un site, c'est un logiciel exprès, on répertorie tout le monde et on a une alerte si la personne a déjà fait quelque chose. Mais elle a déjà été attrapée, ça, bien sûr.
Bah, bien sûr, j'imagine, mais comment vous faites si vous n'avez pas ces alertes? Est-ce que vous arrivez à profiler correctement la personne? Si vous avez quelqu'un de 45, 50 ans, un homme qui se présente, comment vous faites pour le repérer éventuellement?
Alors, moi, en tant que directrice, en tout cas, je suis toujours comme un lion, je rôde. Je rôde un peu toujours autour de mes animateurs pour voir comment ils gèrent, s'ils sont un peu trop tactiles avec les enfants. Déjà, je le remarque à ce moment-là. Parce que les enfants, ils n'ont pas de vice, il faut dire le mot. Ils veulent être dans les bras des animateurs, ils veulent qu'on les porte, etc., etc. Moi, au maximum, j'essaye, je dis à mes animateurs, en aucun cas vous les portez, en aucun cas Voilà. Le moins de tactile, mieux on est tranquille, parce que demain...
Comment vous expliquez ce qui a pu se passer à Paris, alors, Lilia, puisque vous êtes très vigilante?
Pour moi, il y a des... Enfin, pour moi, hein, ça peut paraître complotif, mais pour moi, il y a des complices. C'est impossible que ça se passe comme ça, sans que quelqu'un l'ait vu, et que peut-être se tait, parce que cette personne a peur de parler, ou je sais pas.
Ah, peut-être le gigantisme aussi. C'était le gigantisme, parce que Paris, c'est tellement gigantesque, je pense que c'était laissé à l'abandon. Je pense
mais aussi. Comme
disait Olivier, c'est le seul endroit où ils avaient fait le périscolaire à ce niveau-là. Je pense qu'ils ont dû dire, on va embaucher, on va faire, mais personne n'a régulé.
Oui, et puis aussi, la difficulté d'embaucher. Donc, est-ce qu'on ferme pas à un moment donné les yeux, sur certains comportements, parce que c'est tellement compliqué, d'assurer le service?
J'ose pas imaginer ça. Moi, je suis désolé, mais quand.
J'ose pas imaginer.
Ben non, mais je te jure, quoi, aujourd'hui, tu vois, quand je vois les histoires qui sortent, là, et je me dis, mais aujourd'hui, les enfants, en France sont abandonnés partout, à tous les étages. Parce que tu vois, l'autre fois, le prof, là, le prof de sport, là, qui était vice-président du comité olympique de la Haute-Saône.
Qui avait déjà été condamné.
On le laisse en face de gamins. En fait, moi, j'ai l'impression que les gamins en France sont abandonnés. Et puis, même abandonnés par les parents. Parce qu'à un moment donné, on se rend bien compte que t'as certains parents. On dit tout le temps, les parents s'en occupent pas. Mais quand tu laisses ton gamin dans des endroits comme ça et que ta gamine rentre le soir en te disant, comme ça, au fait, le monsieur m'a touché le zizi ou m'a touché autre chose. Bah,
si
et que tu l'écoutes pas. Moi, je suis désolé. T'as des gamines qui disent, mon père m'a pas cru, j'y suis retourné le lendemain. À un moment donné, tu te dis, putain, merde.
Sincèrement, la plupart des parents, si leur enfant dit, on m'a touché mon zizi.
On est dans la plupart. Comme la plupart des parents suivent leurs gamins et que leurs gamins vont pas cramer des bagnoles. La plupart.
Je parle de Blanchard, c'est le recueil de la parole des enfants, c'est toujours compliqué. Oui, parce que là, on parle de tout petit, hein. C'est 3, 4, 5 ans, donc, voire de 2 ans ou 1 an, même en crèche, comment recueillir la parole?
Surtout que ça parle pas.
Qu'est-ce qu'ils disent?
Merci à Lilia de son témoignage. Merci, Lilia. Merci d'avoir été avec nous. Périscolaire Paris. Peut-on encore avoir confiance? C'est ce que dit Emmanuel Grégoire, le maire de Paris. Il demande aux parents d'avoir confiance, oui ou non. Infaisable, vous dites oui, c'est infaisable. On ne peut pas avoir confiance à 60%. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, Bruno Poncet, Flora Guebali et Charles Consigny, les professionnels du cinéma qui signent une tribune anti-Bolloré. Le groupe Bolloré avec Canal+, qui pourtant finance le cinéma. Ils ne veulent pas voir le cinéma tomber aux mains des réactionnaires, de l'extrême droite. Des fascistes. Du coup, du côté de Canal, on dit, vous êtes bien gentils, les amis, mais nous, puisque ceux qui nous crachent à la gueule, eh ben, vous allez chercher votre financement ailleurs. Alors, vous soutenez quel camp? 32-16 pour en parler avec les GG, il est 10h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story, Flora Guebali, Bruno Poncet, Charles Consigny. Je vous propose, avec vous bien sûr, au 32-16 en direct sur RMC et RMC Story, vous intéresser à ce match entre les professionnels du cinéma et Vincent Bolloré maintenant. Professionnels du cinéma avaient signé une tribune. Elle a été publiée par Libération pour dénoncer, je cite les termes, l'emprise grandissante de l'extrême droite sur le cinéma par l'intermédiaire du financement du groupe Vincent Bolloré. Sauf que derrière, il y a eu la réponse du groupe de Vincent Bolloré et de Canal+, en particulier.
Je n'ai pas envie de travailler avec des gens qui me traitent de crypto-fascistes. Voilà ce qu'a dit Maxime Saada, le patron agacé de Canal+. Il réagissait donc à cette tribune qui a été publiée mardi dernier dans le journal Libération, signée par plus de 600 professionnels du monde du cinéma. Il y a des gens comme Juliette Binoche, Jean-Pascal Zadi, Swan Arlo, l'acteur, mais aussi Sergi Lopez, le réalisateur Raymond Depardon. Bref, cette tribune dénonce l'emprise grandissante de l'extrême droite dans le cinéma par l'intermédiaire de Vincent Bolloré. Donc c'est une tribune anti-Bolloré. Alors ce qui est quand même assez étonnant, c'est que parmi les signataires de la tribune, il y a le réalisateur du film L'Histoire de Souleymane. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, L'Histoire d'un sans-papier. D'ailleurs, l'acteur qui interprétait Souleymane avait été récompensé au César. Eh bien, Maxime Saada cite ce film en disant, mais écoutez, si Canal+ n'avait pas financé ce film, il n'aurait jamais vu le jour, puisque toutes les autres chaînes, et notamment les chaînes du service public, avaient refusé de financer Souleymane, qui a d'ailleurs plutôt bien marché en salle. Et donc c'est incompréhensible d'ailleurs que le réalisateur signe cette tribune. Est-ce que Saada a tort de réagir ainsi? C'est la liberté d'expression. Ou est-ce qu'il met face à leur propre responsabilité ces gens du cinéma? S'ils trouvent que c'est insupportable d'être financé par Bolloré, bah qu'ils aillent trouver de l'argent ailleurs.
Laurent?
Je pense que le cinéma, c'est un média comme un autre, c'est-à-dire que c'est un art en plus, mais qui diffuse des idées, une vision du monde, etc.
Et c'est aussi une industrie.
Et c'est aussi une industrie comme les médias. Et donc, comme les médias, il doit y avoir une indépendance des professionnels par rapport à leurs actionnaires. Par exemple, en théorie, dans un média, on a le droit de critiquer son actionnaire sans se faire virer. Sauf qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Avant, on vantait beaucoup l'indépendance des rédactions, des journalistes. Et je pense que ça devrait être pareil dans le cinéma. Donc, on a le droit... attention, ce qu'ils ont fait par ailleurs, c'est une tribune, hein, c'est des mots sur du papier dans la presse. C'est pas une attaque armée au siège de Canal+. Donc, je pense pas que ça justifie un boycott de la part de Canal+. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on retrouve les mêmes modèles...
Mais dans ce cas, tu craches dans la soupe, alors. Ne pas demander de l'argent
mais si la soupe,
à Canal+, et si ensuite dire Canal+, c'est des fachos.
Si la soupe comporte des dérives, c'est le droit de tous de le dénoncer.
Il faut les démontrer dans ce cas-là.
Les dérives chez Bolloré,
non, mais sur Canal+, sincèrement.
Non, alors sur Canal+, c'est pour ça que le cinéma avait été muet jusqu'à maintenant. Là, il y a une tribune qui sort, des mots sur du papier, ça ne mérite pas d'arrêter la carrière
dans la tribune,
de grands acteurs français.
Ce qui manque dans la tribune, moi je pense qu'on se passera peut-être de certains acteurs, mais ce qui manque dans la tribune, c'est des exemples précis, en disant voilà, ce film s'est pas fait parce que derrière, c'était un film qui défendait pas des idées d'extrême droite, j'en sais rien, mais pour l'instant, dans la tribune, il n'y a aucun fait précis en fait.
Non, mais que Vincent Bolloré poursuive un objectif politique, est un projet politique, un projet de société, un projet civilisationnel. Ça fait fort peu de doute qu'il mette au service de ce projet les entreprises qui sont sous son contrôle. Ça fait fort peu de doute également. En même temps, moi je pense que le cinéma était sous la domination idéologique forte et totale de la gauche depuis des années et des années. Et ça, évidemment, ça ne dérangeait pas les intéressés qui trouvaient au contraire parfaitement normal et légitime que le cinéma français soit une espèce d'instrument de propagande permanent visant à endoctriner les spectateurs. D'ailleurs, les rares films de droite qui ont eu l'outrecuidance de paraître, je pense à Bac Nord, par exemple, à quelques films
de droite
comme ça. Bah oui, en tout cas, ça a été.
Jiménez, il est de droite, va lui parler.
Ça a été considéré. Tu peux ricaner bêtement.
Ça a été
stigmatisé comme film de droite.
Et film profil.
Par ces mêmes belles âmes de gauche. Excuse-moi de te le dire, ils ont considéré que c'était un film. Et ça a très bien marché. Mais donc, c'est une exception, ça que je veux dire. Moi, j'ai bien vu, quand j'étais chroniqueur dans l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché, j'ai fait ce que j'avais jamais fait de ma vie. Je me suis envoyé toute la production culturelle française pendant un an. Les films, les livres, etc. Mais il faut voir ce que c'est. C'est-à-dire, c'est l'URSS. On met dans la tête des gens, on met le communisme dans la tête des gens. Je l'ai vécu comme ça, c'est-à-dire que tous les films
parce
sont.
Parce que c'est sûr pour toi, Hollande,
tous
déjà,
les films sont
déjà Staline, donc c'est
tous
sûr pour
les
toi,
films, film. Tous les films sont idéologiques. De toute façon, d'ailleurs, maintenant, ils doivent même cocher des cases idéologiques pour avoir une chance d'avoir un financement.
Oui, mais du coup, Canal produit tout type de films.
Il y a un petit retour de bâton de la part de Canal. Moi, je pense que je suis pour la diversité dans le cinéma, mais alors toute la diversité. Et je pense que ces professionnels doivent aussi regarder le pas de leur porte. Ils doivent aussi se dire, est-ce que nous-mêmes, on n'était pas dans une entreprise idéologique depuis 30 ans? Et je crois qu'ils l'étaient.
Julien veut réagir. Julien, du côté des Bouches-du-Rhône, notre auditeur dans l'immobilier. Bonjour Julien.
Ouais, salut les GG.
Vous avez
bonjour.
Choisi votre camp dans cette histoire ou pas alors?
Mon camp d'abord, c'est l'incompréhension. Avant d'être celui de Bolloré, honnêtement, quand on voit la grille de financement des films qui sortent de Canal, moi je ressens pas du tout l'idéologie différente de l'idéologie du cinéma français, c'est-à-dire la morale de gauche. Et je comprends vraiment pas l'exemple que vous avez donné tout à l'heure du film Sous les mains, c'est celui que je voulais donner. Mais je me souviens des Trois Mousquetaires version féminin, des films qui font 5000 entrées, qui sont quand même financiers. Et au départ, on parle vraiment d'une idéologie de gauche, soit woke, soit pro-immigration. Donc je comprends pas du tout le positionnement moralisateur de ce monde du cinéma qui est vraiment hors sol, mais complètement, et qui le fait un petit peu avec
parce que le monde du cinéma est très marqué à gauche depuis toujours. Le monde culturel est quand même à gauche, et que là on est dans une bataille culturelle en ce moment, on le voit bien, avec des idées qui se radicalisent, avec des bords politiques qui se radicalisent. C'est le match du deuxième tour Mélenchon-Bardella, et on est en train de le préparer, et ça commence comme ça, hein.
Ouais, mais alors, ouais, dites-moi, Julien, une question, vous allez au cinéma ou pas?
Très peu.
Pourquoi?
Pour dire la vérité. Parce que honnêtement, quand je vais au cinéma, la grille, c'est la moitié ou le trois quarts, voire c'est que des navets.
Oui,
excusez-moi, mais.
C'est pas des sujets que vous avez envie d'aller voir.
Pour passer un bon moment au cinéma, payer 15 balles et voir un film très moyen. Pardon, mais moi j'ai pas 15 balles, donc à 4 ça veut dire 100 balles en fait, hein, parce que c'est 15 balles la place, plus le parking, 4, plus, plus le popcorn, plus ça fait vite 100 balles, hein. Pour passer un moment moyen, de toute façon,
ça dépend, faut bien choisir ses films.
J'écoute que la radio, je regarde pas la télé, je vais pas au cinéma, donc au moins,
vous regardez même pas les films sur les plateformes.
Non, ça m'intéresse pas du tout. Honnêtement, je suis pas bon public pour ça. Mais c'est bien dommage, hein, parce que il y a des chefs-d'œuvre dans le cinéma, mais ça fait un petit moment qu'on en a pas vu au cinéma.
Ah, vous pouvez pas les connaître, vous y allez pas. Donc, depuis tout à l'heure, vous faites un truc. Moi, ça me fait rêver.
Je vous conseille un petit film, un bon film français à aller voir. Là, c'est La Vénus électrique.
Ah, j'ai envie d'y aller. Et juste une illusion.
C'est vraiment un bon film avec un sujet original. C'est très bien joué, très bien tourné. C'est l'histoire d'un peintre qui se remet à peindre en étant abusé par une voyante. Je te le résume. Mais c'est une petite escroquerie et c'est vachement bien. C'est avec Pio Marmaille, avec Gilles Lelouch, avec Anaïs Desmoustiers. Allez voir, c'est un vrai bon film français avec une bonne histoire.
Juste une illusion qui est sortie il y a à peine un mois. L'histoire d'une famille dans les années 80 avec des acteurs excellents. On rit, on pleure. C'est juste un bon moment en fait. Donc,
je voulais dire sur ce sujet,
Gilles Lelouch, on le voit trop, il devrait faire moins de
films. Là, il va sortir un gros film sur
Et chef-d'œuvre de l'année, Des Rayons et des Ombres. Enfin, excusez-moi, notre auditeur qui dit que les films français sont mauvais.
Non,
Des Rayons et des Ombres de Gianoli qui vient de sortir sur l'affaire de Luchère.
Reproché à ce film d'être de droite.
Mais d'accord, mais l'art c'est fait pour débattre.
Non, c'est pas ça. Ils ont reproché à ce film-là d'avoir montré la collaboration sous un jour un petit peu trop cool.
C'est ça qui était beau.
C'était intéressant justement de démontrer qu'on pouvait être un pacifiste pour le rapprochement des peuples, ce qui était le personnage joué par Dujardin et basculer ensuite dans la collaboration.
En tout cas, il a fallu 10 secondes pour citer 3 excellents films français qui viennent de sortir.
Moi, je rappellerai aussi, il y a L'Abandon raconte le drame de Samuel Paty, qui est un excellent film.
Moi, je voulais juste dire...
Il y a Bruno qui veut juste dire un truc.
Moi, je regarde beaucoup de films, contrairement à l'auditeur. Non, moi, je veux juste dire un truc. Moi, je
t'as que ça à foutre.
Non, je travaille, moi. Contrairement à toi, qui es tout le temps à la télé, cousin. Moi, je suis au boulot 4 jours et demi par semaine. Et je veux dire, je crache du sang.
Comme dans le PS scolaire.
T'entends, cousin?
Voilà, calme-toi un peu, Charles.
Tu mets du charbon dans la locomotive.
Ah oui, toujours. Et j'ai la prime charbon, évidemment. Moi, je veux juste dire un truc, c'est que, en fait, l'industrie du cinéma, c'est une industrie. Donc, effectivement, il faut un financement. Aujourd'hui.
Ton film préféré, c'est La Bataille du Rail.
Ah oui, entre autres, pas que. Le train aussi. Et aujourd'hui, il y a un sujet sur le financement, parce qu'aujourd'hui, le financement est de plus en plus compliqué. Et moi, je trouve ça un peu. Autant c'est un peu hypocrite, parce qu'effectivement, moi qui ai Canal+ depuis. 25, 27 ans, 30 ans, je sais plus. En fait, tu vois, tous les films passent sur Canal+, même depuis que c'est Bolloré. Et comme l'a dit Charles Bolloré, il a son projet politique, évidemment. En plus, il va très loin dans la culture parce qu'il a racheté UGC, il a racheté l'Olympia. Enfin bon, il a une galaxie impressionnante pour imposer sa culture à lui. Sauf que pour l'instant, il continue quand même à financer des films qui sont à l'encontre de ses idées, hein. Ça, c'est clair et net. Par contre, moi, je voudrais bien voir un jour, parce que tous ces patrons de gauche, là, qui ont une bouche de crocodile, là, la gauche, on fait ci. Moi, pour l'instant, Pigas, j'ai vu avoir qu'une radio, hein. Je l'ai pas vu dire, j'ai investi dans le cinéma. Et moi, qui côtoie pas mal de mecs du cinéma, en ce moment, ils sont tous en train de nous dire, Bolloré est en train de fermer les cordons, et pas uniquement politiquement, c'est que je pense que financièrement, il est en train de fermer un peu les cordons.
Mais les chaînes de télé françaises aussi.
Les chaînes de foot télé. Alors, principalement France Télévisions, ils chiennent les cordons. Donc, aujourd'hui, on a un vrai sujet, c'est aujourd'hui, le cinéma.
C'est un problème du modèle, ça. Parce que les chaînes de télé sont moins regardées et donc il y a moins d'argent.
On a Guillaume qui va intervenir après Julien. Bonjour Julien, et pensez à regarder les films qu'on vous a conseillés. Bonjour Guillaume.
Et bonjour les GG.
Et vous, qu'est-ce que vous en dites?
Petit coucou de l'aéroport de Nice, j'embarque pour Bordeaux, j'ai regardé le match. C'est horrible.
Vous avez dû vous torturer horrible à regarder ça quand même. Hein.
Allez Guillaume, on passe à autre chose. Allez, allons-y.
Je suis pour Bordeaux de toute façon. Oui, donc Flora. Oui, mais ce sont pas leurs ces employés, les gens dont on parle là, ce sont pas les employés de Bolloré. Donc lui, il finance. Donc c'est un financier. Il produit. C'est un producteur. Donc enfin, il finance les producteurs. Donc qu'ils dénoncent les choses, ils ont le droit. C'est leur droit de dénoncer. Mais après qu'ils aillent pas prendre l'argent de quelqu'un qu'ils dénoncent. À ce moment-là, il faudrait que Monsieur Pigas fasse quelque chose aussi en face pour rééquilibrer les choses, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est ça. Ils sont pas prêts de les voir. En fait.
Ils sont tous. Ben ouais, c'est trop risqué.
Ah oui.
C'est trop risqué. Bien évidemment, Bruno, c'est trop risqué pour. Vous vous rendez compte, le cinéma, combien de films ou combien de séries sont produites et marchent ou marchent pas. Donc il y a un gros risque.
C'est clair.
Et c'est donc, vrai. Bah, il faut respecter et la parole de ceux qui sont qui dénoncent et respecter aussi le mécène, entre guillemets mécène, c'est pas trop ça, mais et respecter mécène, celui qui donne les sous, quoi.
Qui voilà. Finance. Exactement, Guillaume, ce que vous dites, c'est ce que m'écrit Fred aussi. Il me dit, soit tu dénonces Bolloré pour des raisons éthiques et politiques, mais alors à ce moment-là, tu vas jusqu'au bout du raisonnement et tu refuses l'argent de Canal+. Ou alors, si tu prends l'argent, bah, à ce moment-là, tu prends l'argent.
On ne mord pas la main de celui qui vous nourrit.
C'est écrit Fred. Il est 11h25. Le milieu du cinéma est-il hypocrite avec la tribune anti-Bolloré? Oui ou non? Vous dites oui à 92%. Suite des GG dans un instant.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Ça vous fait réagir là, ces histoires là, cet affrontement entre le milieu, une partie du milieu du cinéma hein, et Vincent Bolloré. J'ai Daniel de Haute-Saône qui écrit le cinéma ne devrait pas être financé par l'argent public ou alors juste ce qu'on appelle les téléfilms pour le service public. C'est aux producteurs en fait d'engager leur propre argent, de prendre leur risque. J'ai Lucia de la Loire qui me dit c'est bien la preuve que notre cinéma est devenu une affaire politique. La tribune, c'est CQFD. Manon qui est dans le Rhône nous dit le cinéma c'est le pluralisme des idées, c'est une affaire commerciale, donc on ne mord pas la main qui vous nourrit. Willy nous dit, y a-t-il des exemples concrets aujourd'hui de films qui n'ont pas été tournés à cause d'une censure exercée par Vincent Bolloré? Oui ou non? Non, alors rideau. Et puis j'ai Hicham qui dit qu'on commence déjà à avoir de bonnes histoires et pas toujours des histoires de couple qui se déchirent. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, les gens retourneront au cinéma. Et puis nous, on aura un petit peu plus de choix. Voilà vos réactions sur notre WhatsApp.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
-20, vous êtes avec les GG, avec les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story, Flora Guebali, Bruno Poncet et Charles Consigny sont nos trois Grandes Gueules qui sont avec vous. Je vous propose de vous intéresser maintenant avec nous à un documentaire qui a fait beaucoup parler. Déjà, l'histoire en elle-même a été mondiale. Vous savez, c'est la grève des joueurs de foot français lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, à Nasna. Depuis, cette histoire est devenue un documentaire. Il vient de sortir sur Netflix. La Coupe du Monde, c'était il y a 16 ans, en Afrique du Sud. On se souvient des joueurs français qui ont refusé de descendre du bus. Le sélectionneur de l'époque était Raymond Domenech.
Ben, c'est le plus gros scandale, ou l'un des plus gros scandales du football français. Tout le monde a en mémoire ce qui s'est passé ce jour-là, même si on ne suit pas le foot. Cette image de l'équipe de France qui était en train d'enchaîner les défaites, qui refuse, des joueurs de l'équipe de France qui refusent de descendre du bus pour s'entraîner parce que ils ne sont pas contents de l'exclusion de leur collègue Nicolas Anelka. Nicolas Anelka qui a été exclu parce qu'il aurait tenu des propos insultants contre le coach Raymond Domenech, propos qui avaient été rapportés à la une de l'équipe, des propos très orduriers. Donc on est dans un scandale. Et ce qui est intéressant, c'est que on est donc 16 ans après. Les principaux acteurs de ce qui s'est passé ce jour-là en Afrique du Sud parlent, Raymond Domenech, mais aussi Patrice Evra, qui était présenté à l'époque comme le chef de file des grévistes, mais aussi l'attaché de presse, mais aussi les journalistes de l'équipe. Et moi, je sais pas, parce que vous l'avez vu, je sais pas ce que vous en pensez, on va vous écouter, mais ce qui m'a frappé, c'est que finalement, 16 ans après, chacun reste un peu campé sur ses positions. C'est-à-dire que personne vraiment n'a évolué. Personne ne s'excuse, personne ne dit bon, finalement, on a quand même tous déconné collectivement, et chacun tente de se défendre, aussi bien Raymond Domenech que Patrice Evra. Moi, je trouve que le film réhabilite un peu quand même ceux qu'on avait appelés à l'époque les racailles du football français, Patrice Evra, William Gallas notamment, qui apparaissent sous un autre jour, qui donnent aussi leur point de vue avec un peu plus de recul, ce qui fait que c'est peut-être plus intéressant. On voit aussi le double jeu de la ministre de l'époque, Roselyne Bachelot, qui est à la fois avec les joueurs très maternante et maternelle, et puis une fois qu'elle est à l'Assemblée nationale, elle les balance à la vindicte en les traitant de caïds, hein, ce qui est quand même pas rien. Il y a plein de choses. Raymond Domenech, qui reste un personnage, je trouve, complètement emblématique de cette histoire, énigmatique. Parce que là aussi, il va au-devant des coups, il donne son journal intime, dans lequel il y avait des joueurs qui étaient insultés, et je ne suis pas sûr qu'ils sortent grandis aussi de ce documentaire, ou en tout cas qu'ils puissent obtenir une réhabilitation, si c'était son objectif.
Alors, c'est devenu le documentaire le plus regardé sur Netflix, vous l'avez sûrement vu, vous en parlez avec nous au 32-16. Bruno, qu'est-ce que tu en dis?
Moi, je m'en dis surtout, c'est qu'à l'époque, on avait une honte intersidérale de ce truc-là, parce qu'en fait... Parce que quand tu te souviens un peu de l'ordre des choses, entre la grève, la sortie de Ribéry dans Téléfoot, où c'était ridicule à mourir. Et en fait, je pense que l'origine du truc, c'est la qualification qui est toute pourrie parce qu'on fait une main et que derrière, je pense qu'on est mal qualifié.
La fameuse main tirée.
Je pense que derrière, ça enclenche tout. Faut se rappeler quand même qu'au printemps, il y a l'affaire Zaïa qui sort. Le petit Benzema, il va pas à la Coupe du Monde alors qu'on envoie Ribéry. À se demander pourquoi, alors que bon, Ribéry. Non,
l'affaire Zaïa est étonnamment n'est pas évoquée dans le documentaire.
Donc, ce qui fait qu'en fait, t'arrives à cette Coupe du Monde où en fin de compte, elle était mal montée. Et là, le documentaire, le documentaire nous apprend rien parce que depuis 16 ans, on lit des trucs. Moi, j'ai entendu les discussions. Et surtout souvent les témoignages des principaux protagonistes, même Nicolas Anelka, une fois on avait parlé, il avait bien expliqué ce qu'il avait dit, il avait jamais dit ça, ou en tout cas pas sous cette forme-là. Donc c'est pour ça, moi, déjà aussi un autre absent du truc, c'est l'équipe. Moi l'équipe, je la lis tous les jours depuis...
Le quotidien, l'équipe.
Moi ça fait 40 piges que je lis l'équipe, et là ce truc-là, franchement, ça m'avait marqué parce que je trouvais que c'était pas à la hauteur de ce journal-là. Un journal qui est quand même un journal qui fait vraiment de la travail de qualité avec des vrais journalistes. Là, sur ce coup-là, moi j'étais tombé de l'arbre en me disant, mais pourquoi tu mets ça à la une? Et surtout que derrière, ça apportait rien à l'histoire. L'histoire, c'était pas ça. L'histoire, c'est qu'à la mi-temps, Anelka se barre, il dit va te faire foutre. Et voilà, après, moi je trouve que... Je pense, contrairement à ce que plein de gens vont dire, je trouve que moi, Domenech, j'ai toujours trouvé très intelligent. J'ai toujours trouvé manipulateur, mais très intelligent. Et je suis surpris qu'il donne ses carnets. Et que derrière, après, les mecs, lui, il a essayé de penser qu'on va pas les utiliser. Moi, je suis hyper surpris de ça parce que c'est quelqu'un très intelligent. Je me demande quand même si...
Donc, peut-être pas aussi manipulateur que tu penses.
Non, je pense qu'il est peut-être plutôt provocateur. Je me dis, de toute façon, lui, je pense qu'il est provocateur. Je dis, écoute, il a dû se dire, écoutez, on va aller. Moi, j'envoie le truc jusqu'au bout et puis voilà, maintenant, il se démerde avec ça.
Moi, je savais pas que c'était faux à ce point, les insultes de Anelka. J'ai découvert. Alors, je suis peut-être moins fouteuse que vous,
que certains
ici.
On peut les redire parce que moi, je ne les connais guère.
Va te faire enculer, cette fils de pute.
D'accord.
Voilà.
Après, visiblement, il n'a pas dit ça, entre guillemets, fils de pute, mais il a dit peut-être la première partie.
Ouais, mais
il a marmonné en tout cas.
Moi, je vais dire un truc qui va énerver tous ceux qui aiment le foot, et je comprends. Mais injustice n'est pas française. C'est-à-dire qu'il y a une équipe de bleus qui apprend que on a sacrifié leurs collègues pour rien, ils se mettent en grève, quoi. C'est quand même notre représentation, c'est notre équipe. Voilà, injustice n'est pas français, donc ils l'ont fait jusqu'au bout. Après, moi, ce qui m'a fait halluciner dans ce documentaire, c'est à quel point l'équipe de France de football est si peu encadrée. Il y a un espèce d'attaché de presse, excusez-moi, qui est drôle tellement il est incompétent. Il décide d'ouvrir un entraînement à la presse.
Dépassé par le
oui, et maintenant, et alors, à la fin, le plus drôle du film, je spoil, désolé, l'apothéose, c'est à la fin, on dit, maintenant, il fait des conférences sur la communication de crise. Alors que.
Il a appris.
Oui, mais bon, c'est quand même un cas d'école de non-gestion de crise.
Mais rien ne va.
Et Nicolas Sarkozy, okay, président à l'époque, qui envoie Bachelot pour dire va les gronder, va les engueuler. Moi, je trouve ça dingue que, enfin, il n'y ait pas une équipe de 50 personnes qui encadre ces gens. On dirait qu'il y a Domenech, le conseiller presse et une ministre qui passe de temps en temps.
Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant peut-être dans le film, au-delà de l'histoire qu'on connaît par cœur, c'est comment, effectivement, c'était une crise de leadership, en fait. Il y avait un problème, pas seulement de communication, de leadership. C'est qui reprend le leadership.
Et les pauvres joueurs, on leur a demandé de savoir jouer. On leur a demandé de savoir jouer au foot, on leur a pas demandé d'être des hommes politiques. Ça, c'est compliqué aussi.
Charles.
Écoutez, moi, je trouve qu'en tout cas, Patrice Evra, effectivement, est très sincère dans ce documentaire. Non, mais je l'ai pas vu, évidemment.
C'est vraiment, alors, on t'a demandé de le voir.
Honnêtement.
Non, il n'a pas fait ses devoirs. Il n'a
pas fait tes devoirs, tu vas redoubler.
Mais personne m'a dit de le regarder.
Carton jaune, Charles.
Vous m'auriez demandé de le regarder que je ne l'aurais pas regardé.
Si, 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 la productrice a demandé.
T'avais reçu la consigne.
On a reçu un SMS, Charles.
Ah bon, bah écoutez.
Mais je peux, ton portable, c'est peut-être éteint à ce moment-là.
Non, mais c'est, mon cerveau trie les informations.
Voilà.
Et honnêtement. C'était au-dessus de mes forces.
Un vrai avocat.
Au-dessus de mes forces, je respecte les gens qui apprécient, qui aiment le foot, qui s'intéressent au foot.
Et ça va au-delà du foot.
Ça, ouais, ça va au-delà du foot.
Sans doute.
C'est un problème de société, hein, pour que Sarkozy, tout le monde mette la main dedans.
Voilà. Tu sais que Sarkozy, Nicolas Sarkozy, son obsession, c'est de savoir ce qui s'est passé, et il veut avoir la version de Thierry Henry, qui était l'un des cadres de cette équipe de France.
Tout, hein.
Donc Thierry Henry, il a un avion qui va le chercher, il arrive à Paris, il y a des motards qui encadrent la voiture de Thierry Henry pour qu'il aille à l'Élysée s'expliquer devant Nicolas Sarkozy. C'était une journée d'action, il y avait des grèves partout.
Ouais.
Je crois que c'était la réforme des retraites, déjà à l'époque. De toute façon, en France, on ne manifeste que contre la réforme des retraites, quelle qu'elle soit. Et donc, tout le monde manifestait, et l'obsession de Sarkozy, c'était d'écouter Thierry Henry, qui n'avait strictement rien à dire, visiblement. Et il y a eu une commission d'enquête parlementaire, quand même, on se souvient, mais à l'Assemblée, commission d'enquête parlementaire.
Thomas veut réagir. Thomas, bonjour.
Politique. Bonjour, Léger.
Thomas Duval d'Oise, vous l'avez vu, le doc, qu'est-ce que vous en dites, alors?
Bah, c'est comme je dis au standard, moi je rejette la faute en priorité sur les joueurs. Alors oui, j'ai vu le documentaire, bon, ça ne m'a pas apporté grand-chose, hein. Revoir des tocards,
non, comme,
ça m'a pas fait plaisir, parce que moi je les considère comme tocards. Par exemple, là on parlait d'Henri, un joueur que je respecte par-dessus tout, pour moi c'est un des héros de 98, bah là c'est lui qui aurait dû prendre le leadership, comme vous parlez de leadership, il aurait dû s'imposer en disant voilà les gars, on arrête nos conneries, on a fait n'importe quoi en jouant, on se remet les pendules à l'heure, on va jouer, et tac, c'est fini, passe pas.
Ouais, mais il était plus titulaire. En fait, Thomas était plus titulaire, donc il avait pas la caisse, c'est dans un vestiaire, tu sais comment ça marche.
Bruno, peu importe, c'était l'ancien, c'était un taulier.
Ouais, je suis comme toi, mais tu sais, il était plus écouté, moi, je pense.
Mais tant pis, il aurait dû faire violence à ce moment-là. On tapait un bleu, on mettait un coup de boule, j'en avais rien à faire. Parce que le problème, c'est qu'on
part sur Evra.
Evra, il a fait quoi? Il a juste donné sa petite lettre à Domenech, et lui, comme un pauvre Gugus, il a été la lire devant.
Ça a été une erreur de lire la lettre, ça, c'est sûr.
Ouais, mais tu vois, regarde, Thomas.
Il le reconnaît aujourd'hui, Raymond Domenech, que ça a été une erreur.
C'est simple, ils ont bafoué le maillot de l'équipe de France. Moi, je suis désolé, à un moment donné, on peut dire plein de choses. Ils ont bafoué ça. Ils s'étaient payés des millions. Moi, comme je suis au standard, j'aurais payé pour jouer en équipe de France.
Ils nous ont ridiculisé, c'est ce que vous dites?
Mais bien sûr. Comment ils pouvaient être crédibles? Alors, le jeu, c'est une chose. On peut se rattraper en jouant. Mais là, c'était une honte. C'était inadmissible. Et après,
oui, mais c'était une réaction par rapport à ce qui était arrivé. Ils trouvaient injuste l'exclusion de Nicolas Anelka, qui portait le chapeau d'un fiasco qui était collectif.
Non, mais ce qui est marrant quand même, c'est qu'aujourd'hui, on retient que certains joueurs. Mais en fait, ceux qui ont écrit la lettre, tout le monde le sait, c'est Lloris, c'est Toulalan, et puis c'est Debuchy, tout ça.
Oui.
Et ces mecs-là,
ils témoignent pas dans le documentaire.
Et puis eux, on en parle jamais. Ils ont jamais eu le saut de la famille. Par contre, Evra et Anelka, ils ont le saut de la famille. Moi, j'adore Anelka.
Tous les joueurs sont en mode prendre dans le même sens, je viens de dire.
Je suis pas avec toi, mais t'as vu aujourd'hui.
Encore une fois, j'admire Henri, pour moi, c'est une idole. Mais là, il a été au fond du trou, comme les autres. Il aurait dû prendre les choses en main, et c'était terminé. Et Domenech, s'il avait eu des couilles, bah, il aurait fait autre chose, au lieu de s'aplatir. Il a pris les clés du bus pour pas qu'il parte.
Après, Thomas, c'est une lettre qui a été écrite par des avocats, si je comprends bien. Ouais, parce que d'ailleurs, Domenech, dans le doc, dit il n'y a pas une faute d'orthographe. Il dit il n'y a pas une faute d'orthographe. C'est étonnant. Je crois que c'est l'avocat Toulalan qui écrit.
Thomas, on a Samy qui veut réagir aussi. Samy, bonjour.
Oui, bonjour.
Et vous avez trouvé là-dedans qui étaient les fautifs ou pas en voyant le Domenech? Alors, dites-moi.
Mais on parle de
Domenech, le documentaire, pardon.
On appelle ça un Domenech.
on parle de top, et moi je pense que c'est Domenech la top, parce que c'est un mec qui a pas de. Comme a dit l'auditeur précédent.
Quel était son intérêt d'être la taupe?
Bah tiens.
Ben, son intérêt, c'est que ben, déjà, il était politique, parce que Bachelot, elle est venue, elle a caressé tous les joueurs dans le sens du poil, et après, elle est allée les défoncer à l'hémicycle. Excusez-moi.
Ça, c'est ouf, par contre.
Déjà, oui, mais ça, c'est après. Quel était l'intérêt de Domenech de balancer l'info?
Oui, allez-y, bien sûr.
J'ai vu Valbuena, il était en interview avec quelqu'un que je connais pas du tout, et qui raconte que Domenech mangeait tout seul. Il mangeait tout seul, le mec.
Et donc, il était isolé.
L'entraîneur, le principal, déjà, d'une. Donc ça, quand on regarde les yeux dans les bleus, je suis désolé, il y a d'un côté le staff et d'un côté les joueurs, ok? Déjà d'une, de deux, la lettre, Valbuena dit que, ben, en fin de compte, tous les joueurs, ils ont quelque part regretté ce geste-là, mais qu'ils étaient en fait déterminés à le finir, chose que je peux comprendre. Et de trois, Domenech a été légitimé en 2006, mais grâce à un grand bonhomme qui s'appelle Monsieur Zinedine Zidane. Parce que ouais, sinon, en 2006, tu passes pas les poules et il dégage. Sauf que, ben, il y a eu ce qui s'est passé. Il a été légitimé. Ils ont continué à le garder. Il nous a fait la demande de mariage à Estelle Denis en 2012, il me semble, après l'Euro. Alors,
non, 2008.
Comme des...
C'est 2008,
ouais.
Non, mais qu'est-ce que c'est, ça? Et vous gardez ce genre de type-là?
Donc, pour vous, le fautif dans cette histoire, c'est Raymond Domenech, c'est ce que vous
c'est
dites.
C'est Domenech, je suis désolé. Ouais, après, les joueurs, il faut respecter l'entraîneur. On m'a toujours appris ça, j'ai fait du sport. Mais c'est
donc, horrible. Nicolas Anelka n'avait pas non plus à insulter.
Thomas, Samy, je vous remercie d'avoir été avec nous. Chacun se fera une idée en regardant ce documentaire. Charles ne l'a pas regardé, mais on ne l'a pas prévenu. Faux! On a retrouvé SMS que t'as envoyé Anaïs Inès Sainz.
J'ai la preuve.
Coucou à tous les trois. Lundi, nous allons revenir sur documentaire Netflix au sujet de la grève des joueurs lors du Mondial 2010. Ouais. Le bus, les blancs. Et qu'est-ce qu'on voit parmi les pouces en l'air? Le pouce en l'air de Charles Consigny.
Oh là là. Oh, c'est honteux. Oh putain.
Non, c'est un
une heure de colle.
Ok, bien noté.
Tu serais pas l'avocat de Guillaume, toi?
Mais c'est au-dessus de mes forces de regarder un documentaire sur ce sujet, pardon.
Dans un instant, une magistrate avec nous, Béatrice Brugère. Les juges ont-ils vraiment tous les droits?
J'ai lu Thomas Mann
en parler
tout le week-end.
Alors, face aux juges.
Je le recommande à nos auditeurs.
C'est 9h midi. Les Grandes Gueules.